entre du Bushman et au Kassai oriental. J'ai réfléchi totalement cette
histoire. Moi, c'est une de compagnie au Kassai-Oriental. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de précisément trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bon début de semaine à tous en compagnie des Radio Okapi qui vous propose parole aux auditeurs. L'actualisation du fichier électoral et les financements des élections sont les deux préalables majeurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI avant de publier un nouveau calendrier électoral. Cela a été affirmé par le président de la CENI le mercredi 16 décembre devant la presse. Certains observateurs estiment que le gouvernement devrait débloquer d'urgence les budgets pour les processus électoraux. Une autre opinion pense qu'en tant qu'un organe technique, la CENI devrait d'abord publier son calendrier électoral et solliciter du gouvernement le respect de ces derniers. D'autres observateurs proposent par contre que ces préalables devraient être discutés lors d'un dialogue politique pour harmoniser les différents points de vue. Qu'en pensez-vous? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. C'est Paul Bayanyama et à la mise en onde. Julie Feza est au standard et à la réalisation de ce magazine que vous présente Piero et la Meiji sous la supervision de Martin Seboujang, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Piero et la Meiji.
Le président de la Commission nationale, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé devant la presse le mercredi 16 décembre dernier que l'actualisation du fichier électoral et les financements des élections sont les deux préalables majeurs de la Commission électorale nationale indépendante avant de publier un nouveau calendrier électoral. Certains observateurs estiment que le gouvernement devrait débloquer d'urgence le budget du processus électoral. Une autre opinion pense qu'en tant qu'un organe technique, la CENI devrait d'abord publier son calendrier électoral et solliciter du gouvernement le respect de ces derniers, mais d'autres compatriotes pensent que ces questions de préalable devraient être discutées lors d'un dialogue politique pour que l'ensemble de la classe politique de la population puisse harmoniser les points de vue sur cette question. C'est la question principale. Qu'en pensez-vous? Quel est votre point de vue par rapport à toutes ces propositions? Nous en parlons avec vous. Vous êtes nombreux à vous être inscrits sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Arsène, vous êtes à Kikwit dans la province du Kwilu, mais en attendant, beaucoup de messages sur notre page Facebook Trésor Mianga Kainga Dikisangani disent que le gouvernement et la CENI doivent cesser de nous distraire. Il était prévu depuis longtemps qu'en 2016, nous devions avoir des élections. Pourquoi continuer à tergiverser maintenant? Pourquoi convoquer un dialogue? Pourquoi la CENI doit se plaindre sur les calendriers électoraux? Alors, tout cela devait être fait il y a longtemps. Tous doivent prendre les responsabilités. Amidou Chabani de Kindou, c'est préalable majeur que le gouvernement de la RDC et pour n'a pas d'argent. Il y a des structures et des moyens. On est potentiellement riche. On pouvait très bien mobiliser les fonds nécessaires pour passer à l'organisation des élections et éviter qu'on puisse tergiverser à la veille de 2016. Kasonga Patrick de Kinshasa, je pense que le gouvernement retarde les choses alors qu'ils disent qu'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. Alors, comme la Chine a décidé de pouvoir mobiliser près de 60 milliards de dollars pour l'Afrique, alors cette part de la RDC qui ne ressort pas du budget de l'État peut être utilisée dans cette bilatérale pour l'organisation des élections. Steve Ndjoulé, ingénieur qui est au Bandundu, vit dans la province de Kwilu, dit ceci: nous sommes fatigués avec ces jeux de cache-cache. On ne peut pas nous faire balancer du matin au soir. Tantôt c'est les dialogues, tantôt c'est les financements, il n'y a pas d'argent. Alors, que ce soit la CENI ou le gouvernement, chacun devrait assumer ses responsabilités pour qu'on puisse avoir les élections. Divin Tshisoaka de Kinshasa, je pense que le dialogue national est l'un des processus que la majorité présidentielle utilise pour pouvoir s'accrocher au pouvoir. Une fois que les gens vont accepter les dialogues, et les questions vont être tirées en longueur, et quand les gens ne vont pas s'entendre, ils vont alors recourir à un référendum. Alors, pour moi, la CENI doit d'abord publier les calendriers électoraux. Il faudrait que nous soyons conscients des actes que nous sommes en train de poser. Nous avons Arsène qui nous appelle des Cucuites dans la province de Kwilu. Arsène, vous êtes avec nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour M. Firo et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Et vous avez suivi les impenses et les préalables de la CENI, comme l'actualisation du fichier électoral et le financement des élections, ne devrait pas, en principe, conditionner la publication du calendrier électoral. Il fallait que le calendrier soit publié et toutes ces questions qui sont opposables à tout le monde devaient être résolues par le gouvernement dans les financements. Les autres personnes pensent, mais à l'état actuel des choses, il serait mieux que ces préalables soient discutés dans un forum qui mette ensemble tout le monde pour harmoniser les points de vue. Quel est votre point de vue, Arsène?
Merci beaucoup, M. Pirot. Moi, je crois que la CENI est tout à fait indépendante. Quand la CENI est en train de faire son programme, je crois que les politiques doivent reculer. Ils doivent reculer pour la simple raison que la CENI doit travailler tranquillement. Je crois que l'option qu'a pris la CENI pour d'abord réactualiser le fichier électoral, c'est une des grandes solutions qu'il fallait mettre sur pied. Mais alors, la CENI a besoin de moyens. Qu'est-ce qui se passe? La CENI n'a pas eu une caisse, la CENI n'a pas eu une banque. L'argent ne peut provenir que du gouvernement. Mais qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement? On est en train de tergiverser inutilement. On a budgétisé 500 millions de dollars pour les élections. Que cet argent puisse être déjà à la disposition de la CENI et que la CENI puisse se programmer. Ça, c'est le premier point. Le second point, on parle du dialogue. Nous continuons à dialoguer, Pierrot. Nous avons commencé à parler sur la radio Capi. Il y a des ceux qui sont sur Télé 50, il y a ceux qui sont sur la RTNC. Nous dialoguons. Mais si vous prenez la synthèse de tout ça, vous verrez que les Congolais n'ont besoin que d'une chose. Le Congolais a besoin des élections, et des élections crédibles. Et pour avoir ces élections-là, il faut disposer des moyens financiers. Mais pourquoi on doit tergiverser? Pourquoi? Ça prouve à suffisance que notre classe politique est devenue presque incompétente. Il y a vraiment une certaine bassesse politique quand nous voyons le pays africain en train d'organiser des élections telles que le Burkina Faso dans un calme exceptionnel et tout le monde applaudit. C'est ça la paix. Mais quand vous allez sur un autre schéma, vous dites non, écoutez, il y a de l'argent que nous allons disposer à tel autre moment, mais entre-temps, nous devons d'abord dialoguer. Mais dialoguer de quoi? La CENI est indépendante, la CENI a préparé son programme, la CENI va commencer par la révision du fichier électoral, après la révision du fichier électoral, la CENI va donner son calendrier et au mois de décembre 2016, tout sera fini. Mais avec le moyen qu'on dispose, si nous ne savons pas faire toutes les élections, mais on va aux élections les plus importantes pour essayer un peu de changer la classe politique. Parce que moi, je suis de ceux-là qui disent que la classe politique actuelle a failli en totalité. Je ne prends pas le temps de ceux qui sont dans l'opposition ou de ceux qui sont au pouvoir. Ils ont tous échoué. Maintenant, laissez aux Congolais. Le vrai dialogue, c'est les élections. Laissez aux Congolais décider de leur sort. Et là, il y aura le calme, il y aura la paix. Mais si vous essayez de tergiverser, mais c'est là où je vais attaquer ceux qui croient que le sang va couler. Le sang de qui? Et qui va faire couler ce sang? Aussi longtemps, avec 500 millions de dollars que vous disposez déjà, si vous ajoutez 200 ou 300 millions par des partenaires de la communauté internationale, nous aurons des élections et nous aurons la paix. Pourquoi aller chercher des histoires pour faire couler le sang congolais? Non, 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 allons vers les élections et c'est clair, la CENI a donné son programme. Donnez la CENI l'argent et c'est fini.
Merci Arsène. Vous estimez qu'il faut tout simplement donner les moyens à la CENI, et la CENI dans son chronogramme ne peut qu'exécuter et à donner proposer à la population ces élections que tout le monde attend. Mais tout ça, vous mettez sur les dos de l'incompétence, de la faille, de la classe politique. Vous estimez que les gens ne veulent pas, en principe, aller de l'avant, comme on a vu les élections se tenir dans d'autres pays sans beaucoup de difficultés. Jean-Pierre Dukamouabouzekan a dit ceci: nous, la population congolaise, nous n'attendons que les élections organisées par la CENI en 2016. Il ne faudrait pas qu'on puisse tergiverser, aller ni à gauche ni à droite. C'est la responsabilité de la CENI. Elle doit l'assumer. Donatien Moussouma dit de Kinshasa: la CENI et le gouvernement, on dirait qu'ils sont en train de baloter la population. Ils prouvent la mauvaise foi de la classe politique. La CENI devrait publier le calendrier électoral pour mettre le gouvernement au pied du mur. Sinon, Voilà, c'est le même scénario avec les comités partants. Emmanuel Mukendi de Mbujimayi, nous voulons que la CENI assume à 100% ses responsabilités, parce que le peuple congolais a besoin d'un changement moral, physique et total pour un avenir meilleur du pays en 2016. Le président, ça c'est Darius Bopé, le président de la CENI, n'a pas de raison pour évoquer des préalables. Il doit publier les calendriers réalistes, bien sûr. Il doit alors attendre, publier les calendriers, demander au gouvernement de pouvoir financer les élections. Il n'a pas besoin de pouvoir poser ces préalables. Alors, Tony Nandou de Kinshasa, il dit, mais même, ça la prendra 10 ans, on parlera toujours des préalables. Et Jean-Pierre Mandey, Anikanda Diowele, la CENI vient déposer des préalables clairs et pratiques. Donc, c'est au gouvernement qui doit répondre urgentement à ces préalables en disponibilisant les moyens nécessaires. Nous n'avons pas besoin d'un dialogue qui est une manœuvre dilatoire pour distraire la population et prolonger les mandats des institutions. Voilà, c'est le point de vue exprimé par les internautes sur la page Facebook des Paroles aux Éditeurs Féliciens. Vous êtes ici à Kinshasa. Merci de nous avoir contacté pour votre intervention dans cette émission. Bonjour et bienvenue. Félicien, vous êtes avec nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Pierrot et bonjour à tous les éditeurs de Radio Focus.
Voilà, on vous écoute.
Oui, Pierrot, moi je pense que nous devons être très sérieux et nous devons faire une analyse objective et de la situation. Et la situation de ce pays, la classe politique a tout été bloquée, tout est bloqué. Et on peut pas parler de la CENI, de celui-là. Cette CENI-là a été constituée dans les mêmes conditions que la CENI de Malemal, la CENI d'Ngoni Lundi aujourd'hui. Les contestations sont encore là. Vous n'avez jamais vu quelqu'un de la CENI, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de la société civile, et que quand toutes ces élections étaient mal organisées, qui a démissionné ou qui a dénoncé que c'était mal organisé. C'est-à-dire que cette décision-là n'est pas une CENI. Quand tout est bloqué là-dedans maintenant, la solution c'est un compromis politique. Et un compromis politique, on pourrait le trouver que dans ce dialogue-là. Que tout le monde passe là-bas. Que tout le monde donne de la voix pour voir qu'est-ce qu'on doit faire maintenant devant ce blocage. Il ne faudrait pas que les gens appellent les élections, par rapport aux élections, après ce sont des contestations, après c'est un cri au voleur, au cliché. C'est ça qui n'est pas... Bon, on n'avance pas avec ça. Maintenant, nous savons que nous avons mal fait depuis 2006 et qu'aujourd'hui, on nous domine et nous avons encore bloqué la situation. C'est mieux qu'on se mette autour d'une table qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qu'il faut pour l'avenir afin qu'on puisse faire de bonnes élections? Moi, je ne sais pas pourquoi on peut passer le temps dans les médias à discuter, à écrire tout concerne.
Oui, Félicien, mais si nous suivons la question aujourd'hui, par exemple, en termes de financement des élections, faudrait-il aujourd'hui, si le gouvernement dit qu'il n'y a pas de moyens, il faut discuter autour de la faisabilité des élections pour donner de l'argent? C'est pourquoi les autres personnes pensent que le problème n'est pas à ce niveau-là. Parce que est-ce que s'il fallait débloquer l'argent pour financer la CENI, faudrait-il que les gens discutent ailleurs, à un dialogue pour décider qu'on donne l'argent alors qu'on sait que c'est le gouvernement qui doit financer les élections comme on l'a fait en 2011? Faudrait-il discuter autour des financements des élections alors que c'est la responsabilité du gouvernement?
Mais c'est la responsabilité du gouvernement. Mais pourquoi alors si c'est la responsabilité du gouvernement et pourquoi le gouvernement ne le fait pas? Au dialogue, justement, nous allons aller dénoncer des antivaleurs. Nous allons dénoncer une mauvaise gestion. Nous allons démontrer qu'il n'y a pas la volonté politique pour mieux faire. C'est là que nous allons faire. Moi, j'ai toujours proposé qu'il y ait une commission de vérité et réconciliation où les gens viendront et demander pardon devant le peuple. Il faut un nouveau départ. On parle du gouvernement, mais qui doit dire au gouvernement donner l'argent? Mais le gouvernement, là, il continue à fonctionner, il ne donne pas l'argent. Mais dans ce forum-là, je pense que ça sera un forum à qui on peut donner le pouvoir de décider des grandes choses. Nous ne devons pas se borner sur la constitution, sur les institutions, alors qu'en réalité, il n'y a rien.
Alors, quand on regarde l'histoire du pays, Félicien, il ne faut pas quand même qu'on oublie que l'histoire des forums, des discussions, vérité, réconciliation, on est sorti de la confiance à son souveraine, cela n'a pas pu améliorer quand même, hein, la façon, la manière de gérer, on peut le dire. On est passé par San City, on pensait que c'était un forum qui a réuni tout le monde, ça pouvait mettre les bases quand même d'une gestion harmonieuse du pays et d'un fonctionnement normal des institutions. Nous sommes passés aux concertations nationales il n'y a pas longtemps où il y a eu des recommandations et on a même vu des déclaration disant que c'était un forum historique qui pouvait résoudre les questions, comme le chef de l'État l'avait dit dans le discours de clôture, que les gens venaient alors là démontrer à la face du monde qu'on a vraiment posé les bases de la résolution des problèmes du Congo. Et puis, au dialogue, nous ne sommes pas là dans un processus des cases de départ de même forum, des mêmes problèmes, des mêmes propos, mais qui en réalité renvoie toujours les gens aux mêmes pratiques, aux mêmes antivaleurs. Et en fin des comptes, on risque de ne pas asseoir quand même des structures qui puissent perdurer dans les temps, Félicien.
Mais quelle structure que nous pouvons faire ça, M. Pierrot ? Nous avons des structures aujourd'hui. Nous pouvons appeler qu'il y a des structures dans ce pays. Et moi, je pense que les forums continueront et tout dépend des temps et des circonstances. Ce qui est passé à Tamisipi, ce qui est passé à l'époque de Lumumba, ce qui est passé à la CNS, et c'était à cette époque-là et à ce moment-là. Et aujourd'hui, nous avons encore besoin de tenter la chance, mais il faudra qu'un jour nous puissions avoir l'homme qu'il faut. Il faut que nous puissions changer d'abord l'homme, parce que nous avons un problème d'homme, et nous avons besoin de nous dire la vérité et de prendre une décision de se défendre et de se réjouir du patriotisme pour l'intérêt de notre pays. Et cela, monsieur, c'est ça, c'est dans ce genre de choses, une commission et les consultations où les gens se disent la vérité et les gens prennent la décision de faire le mal à la République. Mais moi, je pense pas que c'est un client, les opposants d'un côté, et les sujets de l'autre côté, et on se lance des boutades, et puis après, il n'y a rien qui change.
Merci beaucoup, Félicien. Vous estimez qu'il faut un forum où les gens doivent se rencontrer, se dire des vérités, les autres demander pardon à la population, lutter contre les antivaleurs. Il faut encore que tout le monde ait la même vision, la même façon de voir par rapport à ces forums. Merci beaucoup, Félicien, de nous avoir appelé de Kinshasa. Sylvain, vous êtes à Bounia, dans la province de l'Ituri. Bonjour, Sylvain, et bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup pour m'avoir, une fois de plus, m'associer à ces débats. J'ai toujours dit que lorsque nous parlons des questions des élections, en République démocratique du Congo, nous sommes ramenés à la lecture correcte de l'article 211 de la Constitution. Qu'est-ce que l'article 211 de la Constitution dit ? Il est institué une commission électorale nationale indépendante dotée de la personnalité juridique, alinéa 2. La CENI est chargée de l'organisation du processus électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, des dépouillements et de tout référendum. Alinéa 3, c'était très important. La CENI assure la régularité du processus électoral et référendaire, monsieur le journaliste. Moi, je pense que le débat est clos. J'ai suivi ceux qui ont parlé avant moi, je vais bien respecter leur point de vue, mais pour moi, il me semble que l'on veut tout simplement ôter, n'est-ce pas, les responsabilités de la CENI, lorsqu'on ne sait pas les doter de moyens conséquents pour la gestion ou la gouvernance du processus électoral au Congo. Lorsqu'on parle de questions de moyens, là encore une fois de plus, monsieur le journaliste, je voudrais faire un exercice avec vous. L'article 126 de la Constitution, les lois de finances de la République déterminent les ressources et les charges de l'État. Alors lorsque la CENI fait partie des charges de l'État. Est-ce que l'on peut dire que depuis l'organisation des élections de 2011, le gouvernement ne savait pas qu'arrivait 4 ans après, la CENI devait organiser les élections et que par ricochet, il fallait inscrire dans les lignes budgétaires de l'État les rubriques concernant l'organisation des processus électoraux. Moi, je crois que nous n'avons pas besoin de dialogue. L'idée, et là je vais responsabiliser le Parlement. Et ceci en termes des articles 90, article 100 de la Constitution. Pourquoi on ne veut pas contrôler le gouvernement sur la gestion ou sur la gouvernance des finances publiques de l'État? Je voudrais ici dire, et partager mon point de vue avec le peuple congolais, que lorsque à Saint-Cyprien, nous avons élaboré une constitution de transition, et dans cette constitution-là, il avait déjà été institué certaines gestions d'appui à la démocratie entre la CENI. Le souci était que le processus électoral soit doté d'une neutralité, d'une impartialité qui garantirait le développement de la démocratie congolaise. Depuis 2006, et je dirais depuis 2005, 2005, puisque c'est au mois d'août que nous avons commencé avec les opérations électorales au Congo, avec les référendums constitutionnels. Après est venu l'identification et l'enrôlement des électeurs. Pourquoi depuis ce temps, nous avons respecté la constitution de ces pays? Nous sommes arrivés à 2006, nous avons organisé les premières élections. La CENI s'est comportée comme une élection responsable de la démocratie. Nous sommes allés à 2011, nous avons vu, avant d'aller aux élections, nous avons réduit le fichier électoral. Pourquoi il ne s'est posé pas un problème? Aujourd'hui, nous allons aussi au troisième cycle des élections. L'organisation des élections avant le 19 décembre 2016 des scrutins présidentiels. Nous devions déjà savoir comme gouvernants que le budget de l'État depuis 2011 jusqu'à ce jour devait embaucher une part importante pour l'organisation des élections, ce qui n'a pas été fait. Et quand vous lisez la Constitution, messieurs, ça c'est une coutume dans tous les États. Lorsque un gouvernement est incapable d'assassiner, le gouvernement est invité à la démission. Pourquoi nous irons au dialogue pour parler des élections, alors que nous avons toute une institution qui est chargée, qui est mandatée par le peuple congolais, le peuple souverain, et ceci à terme de l'article 5 de la Constitution, qui dit l'émanation du pouvoir appartient au peuple. La Constitution est l'œuvre de la population congolaise. Donc moi, je me résume en disant que la révision du fichier électoral n'est pas un problème. La CENI est obligée de l'organiser avant les élections de 2016. Pourquoi? Parce que il y a une part importante de la population, de la jeunesse congolaise actuelle, qui a atteint l'âge de voter et qui ont droit, je répète, en termes de l'article 5 de la Constitution. Deuxième chose, le gouvernement congolais est dans l'obligation, sans le risque d'aller vers la démission, de doter la CENI de tous les moyens suffisants. Voilà ce que j'ai dit, monsieur le journaliste.
Merci. Merci beaucoup, Sylvain, avec beaucoup de précisions, beaucoup de, d'articles aussi. Hein, c'est la responsabilité. Tout a été déjà prévu dans la Constitution depuis 2006. Vous avez évoqué l'historique avec le référendum, l'enrôlement, l'identification des électeurs, les élections de 2006. Avant 2011, on a revu les fichiers électoraux. Pourquoi ça devrait poser problème maintenant pour les élections de 2016? Hein, vous estimez que c'est tout simplement un problème de dialogue téléphonique. Merci beaucoup. Nous avons aussi en ligne M. Fumontoto Basanga. Vous êtes président des Troisième Voix. Merci. Vous avez suivi depuis le début de cette émission, les uns les autres, vous êtes avec nous dans cet échange. Les compétences qui se sont exprimées, c'est vrai que tout le monde n'a pas la même vision. Il y en a qui pensent qu'on doit en principe aller au dialogue. Les autres estiment que c'est le pouvoir de la CENI de publier le calendrier. On accuse les autres qui n'ont pas la volonté politique en termes de financement de ces élections. C'est les gouvernements, mais en attendant, les jours sont en train de passer. La 2015 tient à sa fin, 2016 c'est pour bientôt. Les internautes ici nombreux s'expriment en termes que nous voulons bien les élections en 2016 pour assurer l'alternance. Voilà un peu comment on se retrouve dans cette forêt de déclarations, des contre-déclarations, mais qui, en réalité, il n'y a pas quelque chose qui se dégage, qui puisse permettre puisse donner des garanties aux uns aux autres que c'est que la plupart des auditeurs réclament les élections puissent avoir lieu. Monsieur, bonjour et bienvenue.
Bonjour à vous, monsieur le journaliste. Bonjour à tous qui nous suivent à travers Kinshasa, les provinces, et pourquoi pas en dehors des frontières de la République démocratique du Congo. Avec la main sur le cœur, je voudrais d'abord apprécier les interventions pertinentes des uns des autres, sans négliger la possibilité de proposer mon apport dans ce débat. La première chose, c'est qu'il faut que nous puissions dire que nous parlons de trois choses. Mais deux dans une. Il y a d'abord le calendrier électoral que la CENI est obligée ou doit publier. Il y a ensuite les déconditionnements selon le président de la CENI, c'est-à-dire le financement des élections dont il faut qu'il voie les moyens avant de publier les calendriers, d'après lui. Et deuxièmement, les dialogues qui, pour certains, est un conditionnement qui pourra garantir la tenue des élections en République démocratique du Congo. Pour nous, la troisième voie, nous disons que le Congo a un problème. Un problème d'homme, un problème de culture et un problème d'organisation. Cela signifie que si le problème est mal posé, la bonne réponse est mauvaise. Cela signifie qu'on ne peut pas résoudre un problème dont on ne connaît pas les causes. Parce qu'avant de traiter un dossier,
avant de prétendre donner réponse à une question, il faut d'abord faire l'état des lieux et le diagnostic. Si nous disons que la solution, c'est le dialogue, mais quelqu'un a soulevé une observation, et vous-même, les journalistes, combien de dialogues avons-nous organisés? Combien de gouvernements de cohésion? Combien de recommandations, de résolutions? Mais pourquoi jusqu'ici, le Congo ne semble pas décollé? En disant que nous avons un problème d'homme, est-ce que la réponse au problème d'homme, c'est le dialogue? Si l'homme ne change pas, même s'il va dialoguer, il va toujours dialoguer avec ses intentions négatives par rapport au problème du Congo. Si nous disons que la solution, c'est le financement, mais posons-nous la question, est-ce que l'argent s'est créé ou l'argent a été créé par les hommes intelligents pour couvrir les charges? C'est ça le problème. Si on conditionne les élections par le manque d'argent, n'est-ce pas une façon possible d'affirmer qu'on n'est pas intelligent parce qu'on n'est pas capable de créer des moyens pour trouver des réponses aux problèmes qui se posent au pays? Est-ce qu'un homme qui est incapable de créer des moyens peut-il aussi se prétendre de diriger un pays à dimension continentale comme le Congo? C'est ça le problème. La CENI. Nous savons tous, c'est-à-dire les Congolais, les pays limitrophes du Congo et tous les habitants du monde, que la CENI est un instrument de la majorité présidentielle et que le point de vue du président de la CENI ne fait que répercuter le point de vue de la majorité au pouvoir. Il faut être un enfant pour ne pas comprendre ça, alors que même nos enfants parfois sont plus intelligents que nous-mêmes. Le problème, c'est que la CENI, par son président, est dans un schéma clair de la majorité présidentielle qui consiste à créer des problèmes pour justifier les glissements par le manquement de moyens. Mais le peuple congolais ne va jamais se laisser faire. Comment? Il y a des moyens, en ce qui concerne la CENI. Il y a les moyens pour le fonctionnement de la CENI comme organe technique d'organisation des élections, conformément à l'article que mon frère vient d'évoquer, et vraiment je salue sa mémoire, parce que la CENI ne peut dire qu'il n'a pas de moyens que s'il n'a pas de moyens d'élaborer un calendrier. Là, il peut dire que je ne saurais pas élaborer le calendrier parce que les frais de fonctionnement qu'on m'a donné ne me permettent pas d'élaborer un calendrier. Mais la CENI ne peut pas dire qu'il ne peut pas élaborer le calendrier électoral s'il n'y a pas les moyens de financement des élections. Ça n'a pas de sens. Comment l'État arrive à financer? Et qu'avant de parler de financement, il y a d'abord la budgétisation ou le budget de l'État. L'État commence d'abord par budgétiser tout ce qu'il a comme charge. Mmh. Ce n'est qu'après avoir budgétisé qu'au fur et à mesure que l'État est en train de collecter ses prix, qu'il peut maintenant financer les élections. Comment alors, pour une opération qui interviendra, par exemple, le 19 décembre 2016, la CENI peut déjà au préalable dire qu'on me montre d'abord le moyen avant que je ne fasse les calendriers. Oh, le budget, ce n'est pas l'argent. Le budget, c'est un tableau prévisionnel des recettes en amont et en aval. Ça signifie qu'on ne peut pas avoir l'argent avant d'avoir les budgets. Ça signifie qu'on ne peut pas non plus financer avant d'être budgétisé. Ça signifie également que personne ne peut avoir tous les moyens devant lui avant de commencer une opération. Voilà ce qui nous montre clairement que la CENI actuelle, le président de la CENI actuelle, n'est qu'une simple caisse de résonance de la majorité.
Alors, pour vous,
et nous, peuple congolais, nous n'allons pas nous laisser faire.
Vous estimez-vous que la publication du calendrier, c'est une activité qui est dans une activité normale de la CENI, parce que la CENI a déjà les frais de fonctionnement, il y a des réunions qui se tiennent, il y a des missions qui s'exécutent, et tout cela doit constituer le fonctionnement normal et qu'on ne peut pas attendre le financement des opérations des élections pour conditionner la publication du calendrier.
Mais c'est ça le problème, parce que l'élaboration ou la publication du calendrier global de la CENI ne relève pas de moyens pour le financement des élections.
Mm-hmm.
Non, le calendrier provient du délai constitutionnel et des frais de fonctionnement de la CENI en tant qu'organe technique d'organisation des élections. Mm-hmm. Et donc la CENI ne peut évoquer la question des moyens pour ne pas publier le calendrier que si la CENI manquait ses propres moyens de fonctionnement. Mais pour un événement à budgétiser, à programmer, parce qu'elle a déjà les moyens de fonctionnement, la CENI n'a pas le droit de nous dire qu'elle ne peut pas publier le calendrier parce qu'elle n'a pas le moyen de financer les élections. Ce n'est pas la CENI qui finance les élections. c'est le budget de l'État et la contribution des partenaires étrangers amis du Congo qui financent les élections. Donc la CENI est en dehors de ses compétences. D'ailleurs, c'est une sorte d'usurpation de pouvoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose,
rapidement, oui.
Le financement, le dialogue. Monsieur le journaliste, si nous conditionnons le fonctionnement ou l'accomplissement des missions de la CENI, la tenue du dialogue, alors que le dialogue en République démocratique du Congo n'est pas une loi, quel sera alors le comportement ou le sort de ceux qui ne seront pas pour le dialogue, qui ne constitue pas une loi, qui serait violée au camp ou refusé d'aller au dialogue? C'est un faux débat. La CENI, nous l'avons dit que c'est une institution indépendante. Alors si nous conditionnons ces prises de position par le dialogue politique de la majorité pour pouvoir et ses alliés, qu'est-ce qui est alors l'indépendance de la CENI?
Voilà.
Et ça, nous pouvons dire que la CENI n'était qu'une pièce de résonance des politiciens et qu'on a mal qualifié d'indépendante.
Et beaucoup de gens, d'ailleurs, dans plusieurs de nos débats, les gens estimaient déjà que le fait que la CENI devait être constituée en termes de représentation politique, c'était pas bien au départ. On va revenir le temps d'écouter Michel qui est à Matadi. Vini Kapambou-Dembou-Jimaï a écrit plus de une centaine de messages, bien sûr, qu'on nous a déposés sur la page Facebook des Paroles aux Éditeurs. On pourra exploiter le maximum. Vini Kapambou dit ceci: le calendrier qui sera publié par la CENI, dans les conditions actuelles, est-ce qu'il pourra prendre en compte les élections provinciales parce que rien n'a été fait? Et si d'ailleurs il faudrait y insérer les élections provinciales, ce qui fait dire qu'aujourd'hui on ne pourra pas organiser les élections dans les délais prévus par la Constitution, cela veut dire assurer l'alternance en 2016. Voilà mon inquiétude. Franck Gatola-Mungela, l'enrôlement de nouveaux majeurs entraîne l'ouverture des bureaux de réception des candidats. C'est-à-dire, on ne peut pas reconnaître un Congolais qui n'a pas été enrôlé pour voter, et dans les conditions actuelles, ça risque d'être très difficile, quand bien même on sait que les élections provinciales ne se sont pas encore tenues. Alain Bolodua de Kinshasa: la problématique des élections dans notre pays est fondamentalement de nature structurelle et systémique, partant du type de scrutin, des nombres de sièges à pourvoir, ainsi que des partis politiques, de l'organisation de la CENI, ainsi que du choix des animateurs, de l'étendue de sa compétence, ainsi que des réalités socio-culturelles. Il faudrait reconnaître que la révision du fichier électoral, bien qu'apparaissant comme une petite opération, il ne faudrait pas perdre de vue que cela aura une incidence sur la répartition des sièges, et tout cela va s'entraîner jusque complètement au non-respect de délais fixés par la Constitution. Christian Alvin Kadiman de Mbujimaï: je partage l'idée du président de la CENI. Retournons un peu en arrière. Vous allez remarquer que le calendrier a été publié, mais le gouvernement n'avait pas accordé les moyens nécessaires à la CENI. Quand on a publié le calendrier en 2000, au mois de février, par M. l'abbé Malumalu, on a attendu et le gouvernement n'a pas donné des garanties qu'ils allaient financer les élections. Philippe Casadi: la CENI doit publier le calendrier et faire pression pour que le gouvernement puisse accorder des fonds. Elle doit pour cela rester neutre et impartiale, éviter de prolonger dans des considérations politiciennes. Les dialogues est un faux argument pour perdre les temps en vue de glisser. Michel, vous êtes à Matadi, bonjour et bienvenue.
Oui, merci, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Michel.
Oui. Lorsque je vois la situation de mon pays, et je me dis que le pays est déjà dans l'opprobre, mon frère, il nous reste combien d'années? Il nous reste qu'une seule année. Et moi, je pense, je ne voulais pas peut-être parler à la CENI, au gouvernement, mais je voudrais parler à l'ONU, aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour dire, ce n'est pas avantageux que vous puissiez venir lorsque la case brille. Mais vous pouvez intervenir lorsque la case n'a pas encore brûlé. Si la communauté internationale avait besoin de sauvegarder les femmes et humains aujourd'hui Burundi, il n'y aurait pas ce qui se passe. Mais parce que nous laissons d'abord du temps dans des distractions et nous voulons intervenir lorsque ça brille. Nous avons les mêmes sens que vous. Nous avons les mêmes frontières. Vous savez, mon frère, ce pays, et lorsque nous parlons de ce pays, il faut voir, comme l'a dit l'un de vos invités, qu'il y a un problème d'homme. Est-ce que, en bénéfice, pour que nous puissions organiser des élections, nous avions besoin du dialogue. En 2011, est-ce que le dialogue était-il une nécessité? Moi, je pense, si nous voulons résoudre ce problème, la CENI doit complètement dire, Nanga doit démissionner. Parce qu'il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. Il ne peut pas rester là. Il est là. Un jour, vous avez invité M. Malumalu en vue de vos émissions, si vous vous rappelez.
Oui.
Je lui ai posé la question. Pourquoi tout ce que vous faites résulte que la majorité ne fait pas chier l'opposition? Si vous vous rappelez, il a manqué la réponse. Ce qui veut dire, en Afrique ici, les élections sont d'abord avantageuses pour ceux qui les organisent. Et ça, c'est pas bien. D'une part, si aujourd'hui, il y a une élection, tout un peuple des élections. Je voudrais dire, parce que je suis de l'église de réveil, je voudrais dire à mon représentant, à Nathan Kenda, s'il vous plaît, mon papa, ne mettez pas Jésus dans des sales choses comme ça. Parce que, si vous avez besoin du dialogue, je crois que Matali Kinshasa, il y a une petite distance. Dans 4 du temps, vous pouvez venir. Moi, je m'attendais que M. Albert Kinshasa descend d'ici à Matali, consulter les autres partenaires avant de prendre une décision. La décision que vous avez eue pour aller au dialogue, ça n'engage que vous, votre femme et votre enfant. Parce que vous avez un bénéfice là. N'engagez pas. Même Jésus ne supporterait pas ça. Parce que j'attendais que Albert Kinshasa puisse condamner. Lorsque les Congolais ont été inhumés la nuit, ça veut dire que quelqu'un a pu se condamner la guerre. Parce que ça, c'est anti-chrétien.
Alors, oui, Michel, en tant que partisan des églises des réveils, vous estimez que la décision prise à Kinshasa, le point de vue déclaré sur les antennes de Radio Capital, ça ne vous engage pas. Mais pour vous, vous estimez que aujourd'hui, la priorité, c'est quoi? De quelle manière on doit faire pour pouvoir
s'en sortir
rapidement?
La priorité est claire. Clair, le gouvernement. Vous savez, rappelez-vous, je me rappelle après 2011, je voyais chaque jour Yomi Nomala à la RFI dire qu'il faut qu'il y ait des dialogues. Chaque jour alors, Yomi Nomala passait. Donc pourquoi il n'a pas été entendu? Et à cette époque, écoutez-moi de ce qu'il disait.
Et vous estimez pour le moment. Voilà. Il n'y a pas d'écrit. Et vous estimez pour le moment que le dialogue devient inopportun pendant cette période dans le ciel. Voilà. Et vous estimez que le dialogue pour le moment devient inopportun. Voilà. Et ça fait plusieurs mois que, ces déclarations, ces contre-déclarations. Mais, en même temps, vous vous inquiétez que les temps passent. Les échéances fixées par la Constitution, c'est d'ici 2016. Alors, qu'est-ce qui doit être fait? Cédric Bouama de Kisangani dit ceci. Pour passer aux élections, nous devons vraiment passer au dialogue. Est-il nécessaire vraiment de dialoguer pour financer les élections alors que ça doit être dans le budget de l'État? La CENI doit d'abord publier le calendrier électoral. C'est ça, c'est qui revient à la CENI. Elle ne peut pas conditionner la publication du calendrier électoral au financement des élections. Jonas Basile de Kindou. La CENI étant qu'institution d'appui à la démocratie, la démocratie doit publier d'abord le calendrier électoral et obliger les gouvernements d'accorder les moyens pour les faire. Elle n'a pas besoin d'avoir cela comme préalable. Maître Omar, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bien, bonjour Thierry Lamé, j'ai meilleur vœu à toute l'équipe, à vous, à Madame Julie, à M. Gir, ainsi qu'à toute l'équipe.
Merci et nous vous réitérons ces vœux.
Merci beaucoup Pierrot, merci du verbe que vous m'avez dit. Le sujet intéressant. Je pense, Pierrot Lamé, que l'histoire est une science têtue. On n'en trahit pas, on n'en restait pas, on a subi les conséquences. Lors de l'émission que mon prédécesseur a fait à Dijon, lorsque j'avais invité l'ancien président, je l'avais dit, peu importe la personne qui gère la CENI, peu importe sa nature, qu'il soit saint, qu'il soit pécheur, qu'il soit ange, qu'il soit démon, aussi longtemps qu'on n'accorde pas les moyens sérieux à cette organisation, rien ne se fera. Aujourd'hui, les temps nous donnent raison. Maintenant, parlons de l'émission, avant de dire ma priorité rapidement pour qu'on puisse sauver ces processus. Moi, je pense, Pierrot, il ne faut pas aller quatre chemins. C'est une question de manque de volonté politique, une faiblesse de la volonté de ceux qui gouvernent. Comme l'a dit mon prédécesseur, s'il faut interroger l'histoire, en 2006, aucun problème ne s'est posé d'ordre financier. En 2011, aucun problème ne s'est posé d'ordre financier. Ce n'est qu'aujourd'hui que les problèmes de finances se posent. On manque même 2 millions de dollars pour organiser les élections des gouverneurs. Un grand pays comme le nôtre, lorsqu'il faut inaugurer les immeubles intelligents, il y a l'argent. Lorsqu'il faut créer des services connexes, des mécanismes de suivi, là, il y a l'argent. Mais lorsqu'il faut sauvegarder l'intérêt du peuple, qui est la loi suprême de l'État, il n'y a pas d'argent. Je n'ai aucun jugement à faire à ceux qui gouvernent. Ils ne sont pas des démons, ils ont des défauts, ils ont aussi des qualités. Mais je dénonce la les manques de la volonté politique de libérer l'argent latine. Qu'est-ce qu'il faut rapidement faire comme priorité? Moi, je pense, Piro, je l'ai dit une fois, lorsque vous receviez mes justices, Iwata, ce n'est pas le moment de blâmer tout le monde. Nous déplorons ce manque de volonté politique, mais il est temps que nous puissions trouver les solutions. Car il ne faut pas se limiter à critiquer, encore faut-il proposer des solutions idoines. Moi, je soutiens ceux qui pensent qu'il faut dialoguer. Pourquoi dialoguer? Pour dire la vérité à ceux qui gouvernent, leur dire que vous avez tous les moyens pour avoir l'argent, vous ne l'avez pas fait. Et des deux, pour que nous puissions avoir un processus apaisé. Et aussi au gouvernement, pour finir, il faut dénoter un minimum de volonté politique bureau. Parce qu'on peut bien dialoguer. Le dialogue n'est pas une banque centrale. Il faut un minimum de volonté politique, de respecter ce qui sera dit au dialogue pour apaiser, aussi d'avoir un minimum d'organiser des élections qui sont la présenteur de la démocratie de notre pays. Voilà ma petite contribution, très cher Pierrot, je vous remercie.
Merci beaucoup, Maître Omar Joseph Kadeya. Joseph Kadeya, vous êtes à Kananga. Si vous avez suivi encore ces interventions, que ce soit sur la page Facebook ou bien en direct, vous qui êtes avec nous dans cette émission, Omar vient de dire quelque chose d'assez intéressant. Il a évoqué la question de la volonté politique, mais de respect des engagements, que ce soit au dialogue, mais il y a aussi le respect des lois. Toutes ces questions se posent, les temps passent. Mais aujourd'hui, quels sont les mécanismes plus efficaces que qu'on pourrait aujourd'hui mettre en place pour permettre à ce qu'on puisse sauver les processus électoraux? Parce que c'est ça même le souci de la part de la plupart de nos auditeurs, c'est le procès électoral et qu'il se tienne et qu'il y ait des élections, mais qu'il y a un certain moment aussi qu'il y ait des échéances à respecter qui sont fixées par la Constitution.
Merci, monsieur le journaliste. Mais voilà le problème. Il reste entier. Nous avons dit que le Congo a un problème d'homme, de culture et d'organisation selon le point de vue de la troisième voie. Et ce point de vue est épousé par plusieurs Congolais qui ont pris du temps pour réfléchir sur les causes de notre souffrance et les moyens d'y remédier. Je vous prends le problème d'homme et le dialogue. Acceptons que c'est le dialogue qui soit une solution. Alors, nous avons un problème de volonté politique. Que ceux qui sont pour le dialogue comme solution nous disent comment l'assemblée du dialogue va-t-elle créer la volonté politique, pas de l'opposition, parce que ce n'est pas l'opposition qui fait jouer le processus de la majorité. Comment le fait d'être ensemble, nous ressortons de l'assemblée du dialogue avec la volonté politique, qu'on nous dise. Le dialogue sera une église, on va nous prêcher, nous sommes convertis. Ce sera la magie qu'on va nous donner, sorti nous sommes compétents, deviendrons volontaires. Vous voyez que même par rapport à mon frère Omar qui vient d'intervenir, ce qu'il pense proposer n'est que la demande du peuple congolais, parce qu'il dit problème de volonté politique et solution de dialogue. Et comment le dialogue crée-t-il la volonté politique? Ça, c'est en douté. Le président de la République, qui est le garant des institutions, le symbole de la morale politique au Congo, prend une ordonnance et au cours de laquelle il annonce que la mise en place d'un comité préparatoire viendra avant 11 jours. Aujourd'hui, nous sommes combien de jours après? Le président ne se gêne pas d'avoir pris une décision sans tenir compte de tous les préalables avant d'insérer une prise de position dans une ordonnance. Pouvez-vous comprendre? Au cours de cette ordonnance prise, le président commence d'abord par citer la société civile, ensuite la majorité au pouvoir et enfin l'opposition. Mais lors de son discours récent sur l'état de la nation, il dit plutôt qu'il engage le pays dans le schéma d'un dialogue politique. Il ne cite plus la société civile parce que tout le monde le sait qu'elle est dit apolitique. Le président de la République qui invite les gens au dialogue menace à la suite de son intervention, après avoir invité les gens qui ne seraient pas pour le dialogue, comme si le dialogue était une loi fondamentale, que ceux qui ne seraient pas pour le dialogue auraient violé. Nous voulons le dialogue. Le président de la République dit, au lieu de dire qu'il ne permettrait pas, en tant que garant de la nation et des institutions, et voir du respect de la Constitution, que quelqu'un marche sur les dispositions pertinentes de la Constitution, il dit qu'il ne permettra pas que quelqu'un vienne détruire ce que nous avons construit en termes de paix. Mais le président dit qu'il a construit la paix. Mais la mort des Congolais à l'est du pays chaque jour, c'est la paix. Le mauvais salaire des fonctionnaires, c'est la paix. Le président a une paix en tête que nous ne savons pas, que nous ne voyons pas, que nous n'avons jamais connue. Le président dit que nous devons protéger par les fautes qui passent sur les chaînes nationales en utilisant les petites filles et consorts. Ok, chers parents, ne détruisez pas ce que nous avons construit ensemble. Mais le président et la majorité présidentielle, le président et la CENI oublient que dans ce que nous avons construit ensemble, c'est non seulement le processus électoral, mais d'abord le processus démocratique et la décentralisation par la Constitution. Donc la Constitution actuelle et l'article 220, la Constitution actuelle et le délai constitutionnel constituent ce que nous avons construit ensemble. Est-ce que lorsque le président de la CENI agit de cette manière-là, est-ce que lorsque la majorité au pouvoir agit de la même de cette manière-là, est-ce qu'ils sont en train de protéger ce que nous avons construit ensemble, qui est entre autres fondamentalement la Constitution, ou bien ils pensent qu'ils vont protéger les réponses au détriment du peuple congolais? C'est là le problème. Moi, je crois que tous, même moi, je suis pour les dialogues, mais je voudrais dire au peuple congolais qu'en acceptant les dialogues, moi aussi, je suis naïf. Parce que les dialogues, c'est pour protéger la majorité au pouvoir, et ne sont pour les dialogues que ceux qui savent qu'ils vont accrocher des postes. Je le dis ouvertement. Moi, je suis pour les dialogues, mais je sais qu'en l'acceptant, je suis naïf. Il faut que nous ayons ce courage-là. Parce que je ne vois pas comment les dialogues lui-même va créer la confiance politique, la volonté politique qui résout le problème. Donc, je ne vois pas.
Alors, ici, la grande préoccupation, parce que la plupart des internautes sont revenus là-dessus, c'est la protection des acquis. Et vous estimez que la protection des acquis, c'est ces engagements que les uns et les autres doivent prendre. Mais quand on regarde c'est l'ordonnance, les dates et les temps, et ça passe, ça va être certainement conseillé. Parce que quand on a eu plusieurs émissions parole aux électeurs autour du calendrier électoral, beaucoup de gens avaient déjà pensé que ça allait être très difficile de pouvoir le respecter et malheureusement les choses n'ont pas marché selon le souhait que beaucoup d'auditeurs avaient exprimé. Écoutons d'abord Joseph Beya qui est à Kananga dans le.
Je voulais préciser avant de prendre Joseph.
Oui, allez-y rapidement.
J'ai dit ceci, monsieur le journaliste. Je suis d'accord avec les spots civils qui passent sur la SNC qu'on sort en nous demandant de protéger ce que nous avons construit ensemble. Mais je confirme aux Congolais que ce que nous avons construit ensemble, c'est d'abord le processus démocratique par la Constitution en tant que pacte républicain. Et qu'il n'y a plus rien que nous puissions y prétendre protéger plus que la Constitution.
Vous dites que
ce n'est plus possible. Mais qui a été payé pour que ce soit possible? Qui est payé par l'argent des contribuables congolais pour faire respecter la Constitution? Qui a les avantages du peuple congolais pour faire respecter la Constitution?
Okay, voilà.
C'est ça le problème. Mmh. Et cette même personne vient nous dire en disant allons au dialogue parce que les élections ne sont plus possibles et qu'elle devient la souveraineté nationale.
Et voilà, c'est ça même la grande question et l'inquiétude de nos auditeurs quand on écoute l'opposition et la majorité, troisième voie, tout le monde, la société civile, le point de vue diamétralement opposé, c'est normal dans ces débats démocratiques, mais la plupart de compatriotes qui nous ont écrit comme Kalonji Yakosongo Evariste de Mbujuma, il dit la CENI en tant qu'organe technique devrait faire son travail pour nous faciliter la tâche sans tenir compte des dispositions de politique. Donatien Chilumba de Kananga, il dit la CENI doit faire son travail, mais là nous avons peur que comme ses prédécesseurs, l'actuel bureau se comporte de la même manière. Et Joseph, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur Giro.
Et on vous écoute, vous avez suivi les uns et les autres, on continue à voir dans quelle direction on peut s'orienter dans tous ces échanges hein, pour arriver quand même à se mettre d'accord sur certains points. Mais quand bien même tout le monde ne pourra pas se mettre d'accord. Mais pour vous, qu'est-ce qui doit être fait pour que le processus puisse quand même marcher et être sauvé?
C'est parce que dans mon pays, je suis toujours certain que les grands problèmes, c'est le gouvernement qui nous gère. Tout ce qui se passe, c'est le gouvernement qui a les secrets de tout ce qui se passe. C'est le gouvernement qui nous a amenés là où nous sommes, M. Thiraud. Nous sommes en 2006. Le gouvernement a organisé les élections. Nous sommes allés aux élections sans problème. Ça s'est bien passé. Donc, tant bien que mal, bon, notre question. Nous sommes en 2011. Le gouvernement a organisé les élections. Ça s'est passé tant bien que mal, nous acceptons. Et aujourd'hui, le gouvernement nous dit qu'il n'a pas d'argent, mais c'est héros. Pourquoi nommer les membres de la CENI si le gouvernement n'a pas d'argent pour organiser les élections? C'est un problème grave que le gouvernement nous amène aujourd'hui, mais c'est héros. Le gouvernement nous dit. Nous avons construit ensemble la Constitution de la République. Pourquoi nous ne pouvons pas protéger la Constitution de la République? Ça fait un. Nous avons construit ensemble ce que nous appelons la nation congolaise. Pourquoi nous ne pouvons pas protéger la nation congolaise? Ce que nous faisons aujourd'hui, jouer par-ci par-là, est-ce que pour protéger la nation congolaise, c'est ce que nous avons construit ensemble? Ça, c'est pas un problème. Mais je dis que si, pour bien construire, on obtient quelque chose et aller en avant, et le problème cesse de s'affaire. Vous demandez dans un pays où il y a quelques provinces qui sont dirigées par le conseiller, bon, je ne sais pas, un commissaire spécial, et une partie du pays dirigée par le gouverneur. Et en plus, il y a des députés qui sont très
Votre ligne, frère Joseph, mais on vous a suivi, vous avez dit que s'il faut protéger ce que nous avons construit ensemble, vous avez rejoint tout à l'heure qui évoquait la constitution, qui évoquait la nation, la démocratie, mais dans l'état actuel des choses, vous avez porté la responsabilité sur les gouvernements, les problèmes de fonctionnement des provinces aujourd'hui, d'un côté avec les gouverneurs, de l'autre avec les commissaires spéciaux, et tout ça, vous estimez que c'est la responsabilité du gouvernement. Merci beaucoup, Maître Thierry. Vous êtes avocat, vous, dans la province du Sud-Kivu. Bonjour, Maître, bienvenue.
Bonjour, Monsieur Pierrot. Meilleurs voeux à toute l'équipe. Parole aux auditeurs.
Oui, merci.
Je veux tout de suite lier la situation actuelle de notre pays à celle de pays avoisinant la République démocratique du Congo.
Oui.
Vous avez suivi depuis peu de temps de l'autre côté du fleuve. Le président Sassou a réussi son forcing. Vous avez écouté par la presse que le président du Rwanda aussi fait la même chose. Lui va aller jusqu'en 2034. Nous avons précédemment le pas du président Pasteur Kourounziza. Et donc, je crois que c'est cette logique qui incarne la vision politique actuelle du président Kabila. Parce que je ne vois pas dans quelle disposition de la Constitution on a prévu une institution qui s'appelle Dialogue en République démocratique du Congo. Il est très clairement que le gouvernement, ne voulant pas financer le processus électoral, le gouvernement au pays a un agenda évidemment qui a été préparé depuis très longtemps par la majorité au pouvoir. Cet agenda, c'est celui de maintenir M. Kabila au pouvoir. Parce que vous savez que les élections, c'est un processus qui se prépare depuis très longtemps. Et donc, si nous arrivons dans une situation d'expectative où on veut priver à la population congolaise le droit de voter, c'est parce que c'est très clairement défini par la majorité présidentielle et nous le savons pertinemment quand nous faisons allusion au discours qu'a tenu le président Kabila sur l'état de la nation il y a de cela quelques jours. Il nous a emballés dans un dilemme et il comprend et nous allons comprendre avec tous les auditeurs qu'aujourd'hui la volonté de celles qui sont au pouvoir, ce n'est pas de respecter la Constitution.
La Constitution. Donc, voilà. Merci Maître Thierry. Permettons aussi à Madame Joséphine de s'exprimer. Elle est à Boston, les États-Unis d'Amérique, alors qu'il ne reste qu'une minute pour les auditeurs. Et vous estimez que la situation au Rwanda, la situation au Burundi, au Congo, au Brazzaville, ce sont les trois pays qui ont modifié leur disposition des constitutions pour enlever la question de la limitation des mandats. Vous estimez que c'est ce qui est en train de se passer en RDC, c'est votre point de vue. Et pour vous, le problème des dialogues, c'est un faux problème. Et vous estimez que c'est fait pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Merci, Maître Thierry, de votre point de vue. Nous écoutons Madame Joséphine. Vous nous avez rejoint tout à l'heure. Vous nous appelez de Boston aux États-Unis d'Amérique. On a qu'une minute, hein, Madame, pour votre intervention. Bonjour et bienvenue.
Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole à Radio Okapi. Je vais dire ceci. À tous les intervenants qui sont passés pour dire quelque chose, je leur donne raison. Mais il y a un point. Mon point, c'est ceci. La même question, le même débat, si c'était en 2011, on allait parler autre chose. 2012. Maintenant, là, on est en 2015. Le gouvernement n'a jamais rien accepté, n'a jamais rien fait.
Mm-hmm.
Il y a blocage. Alors, à partir de ce blocage-là, c'est pour cela qu'on doit aller au dialogue. C'est clair, le gouvernement ne va pas accepter, n'accepte pas d'organiser les élections. Il y a blocage. C'est pour cela qu'on va amener le gouvernement pour lui dire que pourquoi tu bloques les élections. Je crois que parce que maintenant là, le calendrier de la série ne peut pas s'appliquer.
Le temps
est passé.
Nous
devons dire en face au gouvernement que vous avez échoué, le chemin est là, la porte est là, sors par la grande porte.
Merci, merci beaucoup, madame.
Le sang coulé. Qui va tuer la population?
Merci, merci beaucoup, madame Joséphine. Merci, on ne sera pas allé plus loin. Mais vous insistez, vous dites que les dialogues, c'est une occasion de pouvoir dire au gouvernement que non, vous avez échoué, sortez par la grande porte. Merci de votre intervention. On vous accorde aussi 45 secondes de Fumoto Tobasanga pour conclure cet échange avec les auditeurs sur cette question épineuse qui touche, bien sûr, vous l'avez dit, au pacte de républicain. À 45 secondes pour terminer.
Que les Congolais retiennent que ce que nous avons construit ensemble, c'est la démocratie, c'est l'état de droit, c'est la République dans un processus républicain normal, et que le président de la République, en tant que garant des institutions du respect de la Constitution, doit nous inculquer la culture du respect de la protection commune de la Constitution.
Merci.
De deux, le président de la CENI doit se rendre à l'évidence que le financement ne peut pas précéder l'élaboration du calendrier électoral, parce que l'élaboration du calendrier électoral de la CENI provient des frais de fonctionnement de la CENI et qui ne peut poser le problème de financement.
Merci beaucoup.
Il disait qu'il n'avait pas les moyens de fonctionnement.
Merci beaucoup, Fomantoso. Merci aux auditeurs. Vous avez été nombreux à partager ces sujets autour de questions politiques de l'heure. Merci à Paul Badianama qui a mis en œuvre cette émission réalisée par Julie César Bongonda, Pierrot et la Méji. Vous la présentez sous la supervision de Martin Sebougian. De parole aux auditeurs, c'est sur www.radiocapi.net. Merci, au revoir.